Ce soir, je vous invite à ouvrir vos Bibles, si vous les avez, à Matthieu chapitre 10, et on va regarder un passage au verset 16 à 23. C'est Matthieu chapitre 10, les versets 16 à 23. On continue cette lecture à travers l'intégralité de l'Évangile selon Matthieu, et nous avons vu la dernière fois les consignes que Jésus a données aux 12 apôtres lorsqu'il les a envoyés dans leur première mission pour proclamer la venue proche du royaume des cieux. Et nous allons voir donc dans Matthieu 10, versets 16 à 23, la suite de l'enseignement de Jésus sur la mission et l'évangélisation. Lecture du texte. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Gardez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous flagelleront devant leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois, pour leur servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans cette ville-ci, fuyez dans une autre. En vérité, je vous le dis, vous n'aurez point achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme viendra. » Avant de regarder quelques idées importantes, quelques notions que nous apprenons au sujet de la vie du disciple et de la mission, quelques notes sur le contexte de ce passage-ci, parce qu'on peut parfois avoir un peu de peine à s'y retrouver. Une chose qu'il faut savoir, c'est que dans l'Évangile selon Matthieu, les différents discours que nous avons de Jésus sont organisés thématiquement plutôt que chronologiquement. C'est-à-dire Matthieu, qui connaît les enseignements de Jésus, il va grouper par thème. Et par exemple, ici, nous avons une série de différents enseignements de Jésus au sujet de la mission, de l'évangélisation et puis de la vie du disciple de Christ dans le monde. Et au chapitre 10 donc de Matthieu, nous avons toute une série d'enseignements différents que Jésus a donné parfois à plusieurs reprises, mais à des moments différents, qui sont regroupés. Et nous savons que c'est le cas parce que quand on lit Marc et quand on lit Luc, qui ont ces mêmes enseignements, nous voyons qu'ils sont donnés à des moments différents dans le ministère de Jésus. Et c'est pas que Matthieu s'est trompé ou autre chose, mais qu'il a un but précis ici en présentant l'intégralité de l'enseignement de Jésus sur ce sujet en un bloc. Je crois que c'est pour l'Église et pour nous aider. Mais une des choses que nous voyons, c'est que en regardant Luc 21, et Marc chapitre 13, où nous avons ce même enseignement qui est donné, que c'est pas le même contexte que ce qu'on a vu au verset 5 à 15 la semaine passée. La mission au verset 5 à 15, c'était d'aller de village en village, probablement surtout en Galilée, pour annoncer que le royaume des cieux est proche. Et là, une des particularités de cette mission-là, c'était qu'il ne fallait pas aller vers les païens. N'est-ce pas? Il y avait une interdiction de prêcher aux non-juifs et aux samaritains, parce que c'était vraiment un message, comme prêchait Jean-Baptiste, de préparation pour la venue du royaume des cieux. Ici, par contre, nous voyons la situation est différente parce qu'il donne l'ordre de prêcher et de témoigner, et ce sera non seulement devant les Israélites, devant les Juifs, mais devant les gouverneurs, les rois et les païens. Donc on voit un champ qui est élargi. De quelle période s'agit-il d'évangélisation? Il semblerait que Jésus ici décrit le ministère ou la mission des apôtres qui commence après l'ascension de Christ à la Pentecôte. Parce que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Jésus décrit ici? Bon, il décrit la persécution dans les synagogues, devant les tribunaux, et les tortures. Il parle aussi du fait qu'il faudra paraître devant des gouverneurs et devant les rois pour témoigner de Christ. Et c'est intéressant, si vous lisez le livre des Actes des apôtres dans le Nouveau Testament, vous verrez les apôtres qui font cela, qui prêche l'évangile, la bonne nouvelle de Christ aux juifs d'abord et ensuite aux païens, qui sont torturés parfois et persécutés par les autorités civiles et religieuses, et qui vont témoigner devant même les gouverneurs des régions et même des rois et des princes. Juste un texte comme exemple, mais on a tout plein quand on lit les Actes. Dans Actes chapitre 5, les versets 40 à 42, les 12 ont prêché dans le temple, ils se sont fait arrêter par les autorités, et maintenant ils sont en train de se faire juger. Et on lit ceci. Puis les autorités du Sanhédrin appelèrent les apôtres. C'est au milieu donc de Actes 5, verset 40. Ils les firent battre de verges, leur défendirent de parler au nom de Jésus, et les relâchèrent. Donc ils les prennent, après les avoir emprisonnés, ils disent, vous n'avez plus le droit de parler de Jésus. Ils les torturent, hein, c'est ça, un châtiment corporel. Et puis, il les relâche. Verset 41. « Ceux-ci se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom du Seigneur. Et chaque jour au temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du Christ Jésus. » Et ici, nous voyons donc la réalisation de ces paroles de Christ. Les pressions extérieures, les tortures, les jugements, les persécutions, mais la persévérance joyeuse de proclamer l'évangile devant tous. Et ceci s'applique donc aux 12 particulièrement, ceux qui sont avec Jésus, moins Judas et avec Matthias par la suite. Mais on verra aussi que la vie de l'apôtre Paul, c'est la même chose. Il va prêcher dans les synagogues, devant les païens, devant les gouverneurs et devant les rois. Et donc ici, nous avons une description, je crois, de cette mission spécifique qui est donnée aux apôtres. Et si on veut clarifier un peu plus, même si c'est pas peut-être ce qui est le plus essentiel, il semble qu'il parle vraiment d'une période assez courte, parce qu'il dit vous n'aurez pas fini de parcourir les villes et les villages d'Israël avant la venue du Fils de l'homme. Et cette venue du Fils de l'homme, c'est une référence à Daniel chapitre 7, qui parle de l'intronisation et du règne du Fils de l'homme, c'est-à-dire de Christ, d'accord, qui va venir, qui se manifeste de deux manières dans la vie des apôtres. Premièrement, à l'ascension, où il s'assied à la droite, où Christ s'assied à la droite de Dieu pour régner, mais aussi dans le jugement de la nation à Jérusalem, qui est montré comme une manifestation du règne de Christ. Donc, c'est cette période donc de prédication apostolique. Tout ça pour dire, hein, je parle un peu de cela, pour mentionner que, comme avec les versets précédents, il faut faire attention de ne pas juste choisir un verset ou un commandement et de l'appliquer universellement, sans critique, sans réflexion. Il y a beaucoup de choses qui s'appliquent à nous, mais pas tout ne s'applique forcément à nous. Par exemple, et là je parle pour moi, mais je ne suis pas convaincu que l'ordre qui est donné aux apôtres de ne pas préparer leur défense s'applique à tous les chrétiens de tous les temps. Okay. Par exemple, si je vais prêcher un dimanche soir ou un dimanche matin, j'essaie de me préparer. D'accord. Et je crois qu'on remercie Dieu que je me lève pas juste et me laisse inspirer à la dernière minute. Mais je crois qu'il y a une responsabilité que nous avons de nous préparer pour enseigner. Donc, il y a un contexte où cela s'applique. Par contre, c'est certain que nous voyons l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre pour préparer et pour défendre l'Évangile devant les gens. En même temps, s'il nous faut, et nous avons une responsabilité de prendre en compte le contexte de ces mots, rappelons quand même que Matthieu, il les divorce un peu de son contexte exprès, de leur contexte exprès. Il est en train ici de nous montrer toute une série d'enseignements sur la mission, l'évangélisation et la vie du disciple. Et je crois que un des buts de cela, c'est d'avoir des principes plus généraux qui s'appliquent à la vie de tous les chrétiens de tous les temps et pas seulement des apôtres. Parce que vous savez, la mission de prêcher l'évangile, c'est pas arrêter avec les 12. D'accord? La mission d'être des témoins fidèles de Christ dans le monde ne prend pas fin dans l'année 70 après Jésus-Christ, à la destruction de Jérusalem. Mais c'est un rôle, une mission que les disciples de Christ continuent à porter dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous pouvons apprendre, qu'est-ce que nous pouvons appliquer? Trois idées, trois P, parce que j'aime bien avoir cette allitération que nous avons, dont on va se rappeler avec ce texte. Premièrement, c'est la persécution, et on va y revenir la semaine prochaine aussi. Mais remarquons bien, Jésus ne promet pas une vie facile à ses envoyés, à ceux qui vont aller porter sa nouvelle à son peuple et au monde entier. Au contraire, Jésus promet souffrance, et il promet persécution. Alors, imaginons que vous avez envie de recruter un certain nombre de personnes, peut-être 12 personnes, pour une association, et vous avez besoin qu'ils prennent des responsabilités. Est-ce que leur dire, bon, si vous venez et vous me suivez, vous serez haïs, rejetés, torturés, et vous allez souffrir abominablement pour cela. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne manière de recruter des gens? Pas forcément, d'accord. Normalement, on dirait, bon, on va promettre des bonnes choses, on va promettre l'épanouissement personnel, tout le bien qui peut être fait. Et bien sûr, Jésus parle des bonnes choses qui viennent quand on le suit. Mais il souligne aussi la réalité de la persécution et des souffrances, pas juste les souffrances de la vie ordinaire, mais celles qui viennent du fait qu'on suit Jésus. Verset 17 à 18, juste pour revoir. Ils vous livreront aux tribunaux et ils vous flagelleront dans les synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois pour leur servir de témoignage à eux et aux païens. Verset 21 et 22, le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Jésus n'est pas en train de faire du marketing ici, mais plutôt il est en train de dire la vérité à ses apôtres, à ses disciples, au sujet de l'appel qu'il leur donne. Ils ont une vie de privilège parce que ce sont les serviteurs du roi. D'accord ? Ils vont avoir l'autorité dans l'Église, la puissance de faire des miracles, mais ils sont aussi appelés à souffrir fidèlement pour le nom de Christ. Et même si l'enseignement ici est donné dans un contexte particulier, nous savons que sans cesse, Jésus va revenir à ce thème de la souffrance pour Christ. Vous vous souvenez du sermon sur la montagne, qui commence avec les béatitudes, heureux ceux qui, etc. La dernière béatitude, c'est la proclamation de la souffrance pour Christ. C'est Matthieu 5, versets 10 à 12, où Jésus dit « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on répondra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qu'ils vous ont devancés. » Et nous voyons cela, non seulement dans l'enseignement de Jésus, mais dans sa propre vie. Jésus s'engage dans une vie de souffrance et de persécution pour Dieu. D'abord avec l'opposition des chefs religieux, mais cela va continuer jusqu'à son rejet et sa mort aux mains des Romains à Jérusalem. Et les disciples vont continuer sur ce chemin de croix, ce chemin de souffrance dans le livre des Actes. Mais à travers ces difficultés qui causent de la peine et qui sont dures à endurer, il y a une joie de savoir qu'ils sont en train de participer à la mission et à l'appel de Dieu. Dans l'histoire de l'Église, et surtout l'histoire très ancienne de l'Église, nous voyons que les chrétiens ont enduré des persécutions et des souffrances souvent terribles, sans se défendre, sans essayer de monter une puissance politique ou militaire pour se défendre, mais en se fiant à Dieu. Un des gouverneurs de la Bithynie, qui est une région donc au nord de la Turquie, au début du deuxième siècle, s'appelait Pline le Jeune. Et il est connu parce que son tonton, c'était Pline l'Ancien. Donc si vous connaissez un peu l'histoire antique. Mais aussi parce qu'il a écrit beaucoup de lettres. Et on a retrouvé une de ces lettres qu'il a envoyées à l'empereur Trajan au sujet des chrétiens. Et voici ce qu'il dit, parce qu'il dit, il y a ces problèmes avec ces chrétiens qui refusent d'adorer l'empereur, donc voici ce que je fais. Il écrit, « Voici l'attitude que j'ai adoptée envers ceux qui m'étaient différés comme chrétiens. Je leur demandais à eux-mêmes s'ils l'étaient. Quand ils l'avouaient, je leur posais la question une deuxième fois et une troisième fois, en les menaçant du supplice. S'ils persistaient, je les faisais exécuter. » Les gens, après le temps des apôtres, continuaient à paraître devant des gouverneurs et à souffrir la torture et le martyre. Il dit plus tard dans sa lettre, « J'ai cru nécessaire d'avoir recours à la torture pour soutirer des aveux à deux esclaves qu'ils appelaient des diaconesses. » Il y a ces souffrances et on voit non seulement quelques témoignages de la part des chrétiens, mais même de la part des non-chrétiens, que les chrétiens ont souffert, le martyre et la souffrance, la perte de leurs biens, l'emprisonnement pour l'évangile de Christ. Et cela fait partie de l'appel d'être disciple de Christ et de témoigner pour lui. Et Jésus ne veut pas que les apôtres et que les disciples soient surpris. Il dit « Ceci fait partie de votre engagement en tant que mes disciples. » Et donc, il va parler très directement et très ouvertement des persécutions. Il a lui-même rencontré de l'opposition. Il ne faut pas être surpris quand les disciples le rencontrent aussi. Et l'apôtre Pierre, qui est ici en train d'écouter Jésus en ce moment, des années plus tard, il va écrire aux chrétiens de Bithynie, justement, dont les enfants et les petits-enfants seront persécutés par Pline le Jeune. Et il leur écrit ceci, c'est dans 1 Pierre 4, les versets 12 à 13. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Mais au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances de Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. » Première chose que nous voyons, l'appel de Christ engage souvent, même si c'est pas toujours dans l'histoire de l'Église, un appel à endurer avec joie les persécutions. Et Jésus est très direct, il ne nous cache rien pour cela. Et notre désir, c'est d'avoir une foi en Christ qui n'est pas conditionnelle. Une foi qui ne dit pas « je te suivrai Jésus tant que ma vie est confortable » ou « je te suivrai Jésus tant qu'on m'aime bien pour ma manière de vivre ». Nous voulons une foi qui ne dépend pas de notre confort matériel ou physique, mais plutôt qui trouve sa joie en Christ, même à travers les persécutions. Et il faut être prêt à en parler. Mais il y a les persécutions, mais Jésus, bien sûr, il ne s'arrête pas là. Il appelle les disciples à la persévérance. Et c'est la deuxième chose que nous voyons. Il y a cette promesse, il dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Et pour les premiers chrétiens, le danger qu'ils voyaient dans la persécution, c'était pas de perdre quelque chose, leur bien, par exemple. Ils disaient pas « Oh non, il y a la persécution, je risque de terminer en prison » ou « Oh non, il y a la persécution, on risque de me confisquer mes biens » ou « de me torturer » ou même de m'exiler, ou même de m'exécuter. Le vrai danger de la persécution, c'est quoi? C'est d'abandonner Christ. Tout le reste, c'est pas grave, en fin de compte, dit Jésus. Parce qu'il y a la vie éternelle, il y a une récompense, et il y a une victoire finale. Le danger de la persécution, c'est pas d'endurer la persécution, mais c'est de craquer sous la pression. Ça, c'est le vrai danger. En tant que chrétiens occidentaux, nous avons la bénédiction d'avoir la liberté de conscience, de culte et de religion. Et c'est une belle chose. Mais nous ne devons pas craindre la persécution parce qu'il y a la persécution qui vient. Mais plutôt parce que si la persécution vient, on est tenté d'abandonner Christ. Vous voyez la différence? Le vrai danger, c'est pas d'être persécuté, mais c'est les effets. Et il y a cette tentation, lorsqu'on est face à l'épreuve, d'abandonner. Et l'abandon se fait de trois manières différentes. La plus directe, donc, c'est d'abandonner la foi, ce qu'on appelle l'apostasie. De dire, bon, sous la pression, je renie Christ, je laisse tomber la foi, et je vais continuer ma vie comme avant de l'avoir connue. Dans la lettre à Trajan de Pline, on voit cela. Il dit, énormément des personnes qui étaient confrontées à la mort, ils ont renié Christ, ils sont partis à autre chose, et je les ai laissés tranquilles. Et donc, un des très grands dangers, c'est l'apostasie, l'abandon de la foi. Et la persécution est utilisée pour cela. Mais un autre danger, c'est de changer le message. D'accord. Et là, ce n'est pas une apostasie directe, on pourrait dire c'est un syncrétisme ou un compromis avec le monde. De dire, bon, je vais rester disciple de Christ, mais si Christ demande quelque chose qui n'est pas acceptable par la société ou le monde, ça je vais laisser de côté. Et essayer de trouver une foi en Christ qui correspond en tous les points à la société autour et qui ne demande aucun changement. Pour les chrétiens du temps de Jésus, ça pouvait être beaucoup de choses. De dire, bon, je vais être chrétien, mais je vais aussi accepter, par exemple, ou rejeter la résurrection pour les Grecs. Je vais être chrétien, mais je vais imposer la loi de Moïse aux nouveaux chrétiens, un compromis avec le monde. Je vais être chrétien, mais je vais continuer à adorer les idoles et l'empereur pour éviter des persécutions. Et il y a toujours ce danger de dire, bon, face à la persécution, je vais enlever ce qui est gênant, enlever ce que le monde n'aime pas, afin d'éviter les souffrances. Et de nouveau, cela ne correspond pas à suivre Christ. L'appel pour nous, c'est de croire dans notre cœur en Christ, mais aussi par nos paroles et nos actes. Et finalement, la troisième chose, bon, on peut abandonner la foi, on peut changer le message, mais on peut aussi juste abandonner la mission. Vous savez, dans presque tous les cas que la persécution est décrite dans le Nouveau Testament, c'est dans un contexte de mission et d'évangélisation. Et historiquement, c'est la même chose. Vous savez, on ne persécute pas les gens pour ce qu'ils font chez eux en privé et qui ne gênent personne. On persécute les gens quand ils arrivent et leur message ou leur comportement est vu par le monde et devient gênant. Jésus avertit de persécution, pas juste parce qu'ils seront ses disciples, mais parce qu'ils vont parler de Christ au monde. Et cela suscite une réaction, parfois de haine, mais même parfois de violence. Et donc, la tentation peut être de ne pas abandonner la foi, ou de ne pas abandonner le message, mais juste d'abandonner la mission. Et de cesser de parler de Christ aux voisins, à ceux qui les entourent, par crainte de persécution. Pour revenir à Actes chapitre 5, vous vous souvenez, hein, les 12, ils sont devant le Sanhédrin, ils vont être battus et relâchés. Vous avez entendu ce que disent les chefs. Ils disent pas « arrêtez de croire en Jésus ». ou cesser d'être chrétien. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, arrêtez de parler de lui. Cela nous suffit. Gardez votre religion, gardez votre foi, tout ce que vous voulez, mais cessez de parler de lui. Je vais relire Actes 5, versets 28 et 29. Ils disent, nous vous avions formellement défendu d'enseigner en ce nom-là. Et voici que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et que vous voudriez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Et Pierre répondit, ainsi que les apôtres, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Jésus prépare les apôtres en leur disant, il ne faut pas abandonner la foi en moi. Il ne faut pas changer l'évangile et il ne faut pas se taire, même si cela implique la souffrance, la persécution. Notons quand même, Jésus n'interdit pas de fuir. Okay. La motivation n'est pas du masochisme, ni la soif du martyr, ici. Si on est persécuté dans une ville, il dit fuyez dans une autre, mais pour continuer à prêcher et continuer à proclamer le message. Pas pour se cacher et devenir invisible, mais pour donner une chance à d'autres villes pour avoir la foi en Christ. Celui qui persévérera, je vais jamais y arriver, hein, mais persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, dit Jésus. Et le but de Jésus, c'est de rassurer les disciples, pas de les faire paniquer en parlant de persécution. Même si certains perdront jusqu'à leur vie, Jésus dit, votre avenir est pleinement assuré. Vous êtes sauvés, leur dit-il, du jugement de Dieu. Non seulement le jugement dernier, mais le jugement qui viendra contre la nation, par le fruit de leur révolution contre Rome. Il leur donne la confiance qu'ils vont participer à la résurrection au dernier jour et qu'ils verront la gloire de Dieu. Et Jésus rappelle que le vrai danger, ce n'est pas la persécution, ce n'est même pas la mort, mais c'est d'abandonner le Christ qui les appelle à lui. Et pour nous, nous avons le privilège de ne pas être persécutés et d'être libres de parler de Christ. Mais nous devons prier régulièrement et dès aujourd'hui pour la fidélité que Dieu nous donne à être fidèle à lui à travers les épreuves et les pressions que nous pouvons rencontrer. Il nous faut prier d'avoir le courage d'annoncer Christ à ceux qui nous entourent dans les situations favorables, mais aussi lorsque c'est difficile. Et si nous faisons cela, nous pourrons continuer fidèles à Dieu. Bon, Jésus parle de persécution, il parle de persévérance, mais il promet aussi la présence de Dieu à travers toutes ces choses. Nous pouvons poser la question, et c'est une tendance naturelle, lorsqu'il y a la persécution, lorsqu'il y a la souffrance des justes, comme dans le psaume 69, de dire, est-ce que cette persécution, c'est la preuve que Dieu est absent? Est-ce que c'est signe que Dieu s'est détourné de nous? Est-ce que c'est signe que l'Église a été vaincue par le monde? Et Dieu dit non. Il dit que Jésus nous rappelle que Dieu est à l'œuvre même dans la persécution, ou même particulièrement dans la persécution, tout comme il était dans la souffrance de Jésus-Christ sur la croix. Comment le savons-nous? Premièrement, parce que ces choses sont prédites. C'est pas comme si un jour l'Église a été choquée en disant oh, « on est persécuté, qui aurait pu s'attendre à cela ?» Mais dès le début, l'appel à suivre Christ, c'était un engagement à faire face aux épreuves. Et Christ, le règne de Christ n'est pas remis en question par les persécutions que lui-même a annoncées. Deuxièmement, il y a cette confiance que Dieu est présent et Dieu est à l'œuvre dans les persécutions, car l'Esprit du Père, dit Jésus, vous donnera les mots à dire pour votre défense. Ici, les apôtres savent que c'est l'Esprit de Dieu qui est présent avec eux, qui est en train de témoigner, même dans ces moments de persécution. Dieu ne les a pas abandonnés, au contraire, il se sert des persécutions pour témoigner. Et ça, il le dit clairement, que ils seront traînés devant les tribunaux, devant les rois, devant les gouverneurs, pour servir de témoignage. Il dit pas, ne vous inquiétez pas, on va jamais réussir à vous arrêter. Il dit, ne vous inquiétez pas, parce que quand vous êtes arrêtés, voilà l'occasion de témoigner. Et j'adore lire dans les actes les récits de Pierre et de Paul plus tard, qui sont en train de se faire arrêter, on les amène devant le tribunal, et Paul, il dit, ah, quelle belle chance, je vais pouvoir parler de Jésus. Voilà un juge qui a jamais entendu parler de Jésus, je vais pouvoir annoncer l'amour et la joie et l'espérance en Jésus-Christ. Parce que Dieu est à l'œuvre même dans les persécutions. Ça, c'était la conviction de Paul. Paul écrira aux chrétiens de Philippe, de la ville de Philippe, dans Philippiens 1, versets 12 à 14, lui qui est en prison à ce moment-là. « Je veux que vous le sachiez, frères, ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire être emprisonné, a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. La plupart des frères, confiant dans le Seigneur, en raison de mes chaînes, ont beaucoup plus de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Donc pourquoi est-ce que Paul pouvait prêcher avec confiance? C'est pas parce qu'il avait tellement de courage ou qu'il avait tellement de talent d'orateur. C'est qu'il était confiant que Dieu était présent dans la souffrance, dans la persécution, pour accomplir son œuvre. Et j'adore ça parce qu'il dit tout le prétoire, c'est-à-dire il y avait une maison de garde, d'accord, une rotation, une compagnie de garde qui était là. Il a dit chaque garde a entendu parler de Jésus. Parce que la pratique, c'était on enchaînait le garde au prisonnier. Et Jésus, donc, Paul, il a son garde qui lui est enchaîné. Il dit, je vais pouvoir te parler de Jésus, à celui donc qui est enchaîné à lui. Et je suis sûr que certains des gardes, ils pensaient qu'à partir pour ne pas devoir entendre parler de Jésus encore par une personne. Mais Dieu est à l'œuvre, Dieu est présent, à tel point que l'apôtre Paul, de nouveau, parle de participer aux souffrances de Christ lorsqu'on est persécuté pour l'Évangile. Lorsqu'on souffre, pas juste les souffrances naturelles de la vie, mais à cause de Jésus, on souffre pas à côté de Jésus, on souffre avec lui et on participe à sa mission. Et notre désir, de nouveau, c'est d'avoir la foi dans la persécution, non seulement qu'un jour ça va prendre fin, ou qu'un jour Dieu va nous ressusciter, mais que Dieu est présent, maintenant et là, et que Dieu ne nous a pas abandonnés. Notre confiance, c'est que quelles que soient les circonstances de la vie, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, que Dieu est présent et Dieu désire être à l'œuvre, si nous cherchons à faire sa volonté dans ces choses-là. Et nous pouvons avoir confiance que Dieu peut se servir même du mal pour faire le bien et pour bénir ceux qui sont autour de nous. Nous devons prier pour son soutien et pour son soutien pour avoir cette confiance dans l'épreuve. Et nous devons aussi prier, je suis convaincu, que Dieu nous donne les paroles pour témoigner fidèlement de lui. De prier que Dieu nous donne les bonnes paroles pour partager l'évangile avec d'autres, pour témoigner de qui est Jésus. Que nous ne comptions pas sur notre propre intelligence ou notre propre préparation, mais vraiment sur l'Esprit de Dieu qui est toujours à l'œuvre en nous. Bon, nous avons ici un exemple, peut-être l'exemple par excellence, des disciples missionnaires qui parlent de Jésus. Et c'est les apôtres que Jésus a envoyés. Mais qu'est-ce que nous apprenons? Bon, nous apprenons que la persécution fait partie de l'appel de Dieu à la mission et de l'évangélisation. Et notre réponse, ce n'est pas la défense, l'autodéfense, la violence, l'activisme politique, mais c'est la fidélité à Dieu. Et que nous prions et nous préparions pour cela. Nous voyons que Dieu nous demande de persévérer dans la foi sans abandonner Christ et sans compromettre l'évangile et sans se taire. La pire chose, nous le croyons pour nous, c'est d'abandonner Jésus. Et rien d'autre ne vaut Jésus et son amour et son appel. Et finalement, nous voyons que Christ est présent et à l'œuvre, non seulement dans les bénédictions de tous les jours, mais dans les souffrances et dans les persécutions. Et nous vivons avec la foi qui ne nous a pas abandonnés. Aujourd'hui, à presque 2000 ans après cet appel, nous désirons être les représentants de Christ dans ce monde. Et que Dieu nous aide, par son esprit, à témoigner fidèlement et avec amour, à persévérer malgré les épreuves sans jamais nous lasser, et à compter sur sa force et sa présence tous les jours.